tel quel. Podcast.
Covid ou pas Covid, les années se suivent et se ressemblent sur le terrain de l'enseignement. Quelle que soit l'organisation, l'institution ou l'organisme international qui effectue un classement sur le niveau scolaire des élèves à l'échelle planétaire, le Maroc reste cramponné au siège de mauvais élèves. Une étiquette que le Royaume n'arrive pas à changer ni à modifier. Comme si la culture de la fatalité était la règle et non l'exception. Comme si l'impuissance publique était avérée sans être assumée. Comme si l'État avait déposé les armes et se contentait de dépenser 60 milliards de dirhams par an, à fond, quasiment perdu. On savait et on sait encore plus aujourd'hui, contextualitaire oblige, que l'éducation et la santé sont les piliers de notre sous-développement. Un sous-développement plombé essentiellement par une école et une offre de formation qualifiante en total déphasage avec l'exigence d'une société en marche et d'une économie dynamique. Reste à savoir ce qu'on veut réellement être avant de savoir ce qu'il faut réellement faire. Je suis Rachid Alaoui, vous écoutez le SCAN, le podcast d'actu de Tel Quel. Bonjour Saïd Anchan.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste des politiques publiques, des inégalités et du développement.
Exactement.
Saïd Anchan, on va revenir sur la problématique, j'avais dit récurrente, et les sujets qui reviennent chaque fois. C'est cette école, cet enseignement chez nous au Maroc qui ne fonctionne pas. Et chaque fois qu'il y a un classement international qui est effectué, on a toujours la même confirmation malheureusement. C'est que le Maroc occupe le rang, j'avais dit, de mauvais élèves. Pourquoi ?
Donc pour commencer, je dirais tout simplement que tout cela n'est pas nouveau parce que depuis 20 ans que le Maroc participe à ces évaluations internationales, on est toujours classé parmi les 5 derniers. Que ça soit d'ailleurs en mathématiques, sciences, en lecture via le dispositif PIRLS dont les résultats vont être publiés prochainement ou à travers notre participation à l'évaluation PISA. Donc tout ça n'est pas nouveau. Donc, qu'on le veuille ou non, il faut tout d'abord reconnaître que les évaluations internationales sont devenues incontournables pour des bonnes ou des mauvaises raisons dans les débats autour du système d'éducation et de formation de la recherche. Et comme l'éducation est une question qui passionne et qui divise, les politiques et les organismes internationaux se sont peu à peu emparés des résultats de ces évaluations pour en faire un outil consistant pour l'essentiel à orienter le financement de l'éducation, justifier la reddition de comptes dans le cadre de lois de finances, et très souvent prôner à tort ou à raison d'ailleurs, face à la défaillance du secteur public, l'extension de l'initiative privée, pour ne pas dire le recul de l'État, d'un secteur clé et aussi stratégique.
On va revenir là-dessus, mais est-ce que tout d'abord, le fait qu'aujourd'hui, parce que je sais que la classe politique, à la fois au Maroc et à la fois dans de nombreux pays dans le monde, entre ceux qui considèrent que évaluer le niveau scolaire des élèves et les comptabiliser comme ça au travers d'un classement sur la base de certains critères, c'est quelque chose qui ne doit pas être fait parce que ça fausse la donne et c'est pas forcément l'effet miroir de la réalité. Est-ce que vous êtes partisan de dire il faut effectivement évaluer pour avoir des indicateurs pour pouvoir mener des réformes ou vous dites qu'effectivement l'éducation ne doit pas être entre les mains comme ça de statisticiens?
Exactement. Merci beaucoup, Sir Rachid, pour cette question. C'est vraiment une question pertinente. En fait, moi, personnellement, si je crois à la vertu de ces données qui sont récoltées dans le cadre de ces dispositifs, pour des questions de recherche, ne serait-ce que pour initier de jeunes doctorants à utiliser des données, à les manipuler, pour développer des investigations autour de la qualité de l'éducation, de ces différents facteurs d'inégalité, je reste vraiment très, très sceptique quant à leur usage pour l'initiation ou la justification de certaines réformes, et je m'explique. En fait, la comparabilité internationale est devenue maintenant une discipline à part, avec ses traditions académiques et ses fondements épistémologiques. Donc, tout d'abord, si l'on veut rendre utile ces dispositifs pour les politiques éducatives du gouvernement, il faut d'abord mener de profondes discussions délibératives sur les enjeux d'une question, d'un item, de l'évaluation d'une activité pédagogique en prenant le soin de bien les faire varier selon les contextes sociétaux. En fait, il s'agit tout simplement de prendre très au sérieux ce que ces approches de comparabilité internationale appellent l'effet sociétal, c'est-à-dire autrement, replacer les résultats de telles enquêtes dans leur contexte. Par exemple, l'éducation n'est pas la tomate, c'est un bien complexe C'est un bien plus complexe qu'un bien public, c'est un bien commun, où il faut faire preuve de beaucoup de modestie pour évaluer ses résultats, en évitant de recourir à des comparaisons aveugles, comme si un élève dans les zones rurales enclavées de notre pays pouvait directement se comparer avec les conditions qui président aux apprentissages dans les campagnes d'Europe, de l'Ouest, par exemple. Donc, par conséquent, la question qui se pose, comment peut-on prétendre qu'un dispositif de mesure de la qualité de l'éducation puisse comparer sans référence, et c'est ça le reproche fondamental que je fais à ces dispositifs, et je ne suis pas le seul, donc, comment peut-on prétendre qu'un dispositif de mesure de la qualité de l'éducation puisse comparer sans référence ni au programme, ni aux objectifs d'un niveau scolaire, un élève du Moyen Atlas, un élève sud-asiatique ou européen?
Ça veut dire quoi, Saïd Anchan? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous considérez, vous, qu'avant de faire une évaluation sur le niveau scolaire d'un élève X ou Y, que ce soit en matière de sciences ou en matière de, ou son niveau d'apprentissage et de connaissances au niveau mathématique, il faudrait prendre en considération comme premier critère les conditions sociales.
Non seulement les conditions sociales. Les conditions sociales, ça c'est indispensable, c'est important. Il faudrait évaluer les programmes. Ces dispositifs n'évaluent pas les programmes enseignés aux élèves marocains. Ils disent qu'ils prennent en compte les spécificités nationales des programmes, mais c'est pas vrai. Ils ne peuvent pas le faire parce que c'est assez lourd. En fait, le défaut de ces évaluations provient de leur objectif qui consiste à mettre sur le même pied d'égalité les compétences qui doivent être, le niveau des compétences qui doit être acquis par un élève, quel que soit le pays. Et là, je suis pas d'accord. Et la littérature internationale, elle est abondante là-dessus. Donc, il faudrait développer des dispositifs nationaux d'évaluation.
Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il me paraît logique, et je ne pense pas que c'est Saïd Anchan qui va me contredire à ce niveau-là, parce que je rappelle que vous êtes spécialiste des inégalités, que les instituts internationaux aient une approche égalitaire à travers le monde pour évaluer les niveaux des élèves, ça me paraît avoir du sens, non ?
Il est égalitaire, mais il doit être égalitaire, mais avec des conditions. C'est-à-dire on ne peut pas évaluer comme ça, dans l'absolu, les compétences d'un élève à travers un exercice d'évaluation. Qu'on lui donne, il faudrait que cet exercice d'évaluation soit fondé, ou là, il part de ce que l'élève a appris dans le cadre de son programme. Et les programmes d'enseignement, comme vous le savez, assez Rachid, ils diffèrent d'un pays à un autre. Au Maroc, on a fait une très belle expérience à travers ce qu'on appelle le plan national d'évaluation des acquis, qui évalue les programmes, les livres scolaires, qui vraiment évalue la politique éducative. Parce que comment le Maroc, il est mal classé. Et alors, comment on va élaborer nos réformes à partir de ces évaluations? Aucune idée là-dessus, ils nous classent.
Oui, mais sachant qu'en même temps, nous, on sait très bien, nous, Marocains au Maroc, que notre système éducatif est en panne depuis plus de 20 ans.
Non, mais ça, bien sûr, on est parfaitement convaincus. Eux-mêmes, les évaluations qu'on avait réalisées à l'instance nationale d'évaluation, après normalisation, ils arrivent au même résultat. Sauf que les évaluations qu'on a menées au Maroc dans le cadre du programme national d'évaluation des acquis, ils sont utiles parce qu'ils vous disent, ils vous indiquent là où ça va pas. À quel niveau du programme? Est-ce que le programme a été achevé ou non? Quelle est la matière qui pose plus de difficultés aux élèves marocains? Vous comprenez ce que je veux dire, Rachid?
Mais si on avait pris d'autres matières, en l'occurrence par rapport à cette dernière enquête et étude internationale menée par TIMSS, dans 60 pays, sur l'évaluation en matière de sciences et connaissances en sciences et mathématiques des élèves, je crois, de savoir du 4e année primaire, 2e année collège, s'il y avait d'autres matières qui avaient été choisies, par exemple, est-ce qu'on aurait été meilleur?
On aurait eu le même classement. C'est pas...
Quelle que soit la matière.
Ce que je suis en train de te dire, c'est Rachid, ces évaluations, ils sont utiles. Moi personnellement, j'ai encadré 5 thèses de doctorat à partir de ces données-là. Ils sont intéressantes pour la recherche et tout ça. Mais ils ne peuvent pas servir comme outil pour mener des réformes éducatives. Parce que on n'évalue pas les programmes, on n'évalue pas les maîtres, les sénètres dans les politiques éducatives. Il est très important.
Mmh. On se dit depuis 20 ans, en tout cas depuis plus de 20 ans, notre école va mal. Mais en même temps aussi, depuis 20 ans, il y a une recrudescence des écoles privées dans notre pays. Et en même temps, quand on regarde les classements, la moyenne des classements sur les 20 dernières années, on reste toujours en queue de peloton. On est dans les bas-fonds du classement, alors que la privatisation de l'enseignement s'est développée de manière très soutenue ces 20 dernières années. Est-ce que ça veut dire que les écoles privées, quoi qu'il en soit, n'ont pas permis de réorienter la dimension qualitative de l'école chez nous ?
Les élèves des écoles privées n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'ils sont aussi mal classés dans ces dispositifs internationaux dès lors que l'on tient compte de l'origine sociale. Alors même que leurs parents consacrent parfois le tiers de leurs revenus pour la scolarisation, pour leur scolarisation. Donc même les écoles privées, ils contribuent à augmenter un petit peu la moyenne, mais nationale, par rapport à d'autres pays. Ils contribuent à améliorer très peu notre score à l'échelle internationale, mais c'est pas du tout significatif. Mmh. Donc si ces évaluations ont une vertu, c'est qu'elles montrent que le secteur privé de l'éducation n'y peut pas grand-chose. C'est une illusion qu'il est temps de lever. Bien évidemment, la dégradation du système public de l'éducation pousse les parents, comme moi d'ailleurs, à scolariser leurs enfants dans le privé, à payer en plus de très chers cours particuliers, en espérant limiter les égards, mais sans guère de conviction. Et comme le dirait le grand maître de la sociologie de l'éducation, François Dubé, nous dénonçons tous les inégalités, mais nous les fabriquons. Moi, je les fabrique, bien sûr, parce que j'envoie mes enfants dans des écoles privées, en espérant limiter les dégâts et parfois en payant des cours particuliers. Donc, c'est pas tous les parents qui envoient leurs enfants dans des écoles privées, là, ils payent aussi des écoles privées et tout ça, ça devient lourd en termes de budget.
Vous avez fait référence depuis le début de notre débat, chaque fois ramener une évaluation d'un élève en matière de connaissances, quelle que soit la matière d'ailleurs, à l'origine sociale, à ses conditions sociales. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension économique ? À savoir que quand on regarde le dernier classement mené par TIMSS, par exemple, on se rend compte que les meilleurs élèves sont les élèves chinois et coréens. C'est-à-dire ils sont tous asiatiques. Et comme par hasard, ils vivent dans des environnements où les économies sont extrêmement dynamiques.
Ah.
Est-ce que du coup, le fait qu'on reste cramponné au dernier siège et en fond de classe, est-ce que c'est pas aussi la conséquence aussi, ou en tout cas l'effet miroir d'une économie chez nous qui n'est pas suffisamment dynamique ?
Qui n'est pas suffisamment dynamique, mais le facteur le plus important que nous avons et que j'ai identifié dans mes travaux et que d'autres chercheurs ont identifié, où est l'effet invariant et structurel des inégalités sociales. Ok? Certes, il joue dans beaucoup de pays cet effet, y compris dans les pays développés, mais c'est bien au Maroc que le poids de ces inégalités dans l'explication des résultats des acquis des élèves est plus fort. Et il est très difficile de savoir, on a un exemple, il est très difficile de savoir. Donc, parce que maintenant, le Maroc, il a adopté ce qu'on appelle l'approche par compétence, c'est-à-dire une approche qui consiste à suivre la progression de l'élève et qui nécessite un investissement extraordinaire des parents et des maîtres. Donc, il est très difficile de savoir dans quelle mesure l'approche par compétence adoptée officiellement par le système éducatif marocain il y a maintenant une dizaine d'années est réellement à l'œuvre, sachant que son effectivité demande un investissement très important, non seulement des enseignants qui doivent être formés de façon mais vraiment extraordinaire, pour qu'ils soient en mesure de se l'approprier, de s'approprier cette approche, mais aussi des parents, pour être en capacité de suivre tout simplement la progression de leurs enfants. Cette approche est-elle adaptée pour un pays comme le Maroc ? Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'elle est adaptée ? Est-ce que cette approche, par contre, est-ce qu'on a les moyens de pouvoir adopter cette approche. Donc voilà une question sur laquelle il faudrait désormais se pencher. Mais les débats entre les spécialistes de l'éducation font rage autour de la capacité de l'école à corriger ces injustices liées à l'origine sociale, dans la mesure où l'on peut qualifier d'archéologique. On peut les qualifier d'archéologiques puisqu'ils commencent à peser avant même l'accès à l'école et en dehors des
études. Je pense pas que je pense pas qu'un Saïd Anchan que l'école a pour fonction et pour mission de réguler les inégalités qu'il peut y avoir dans un environnement.
Ah non, là je suis pas d'accord avec toi, Rachid.
Allez-y.
Parce qu'il y a un débat entre les spécialistes. Par exemple, si vous prenez le modèle français, c'est un modèle dans lequel l'école a pour objectif de transformer la société et de réduire les inégalités sociales. Alors que dans d'autres travaux, on insiste sur le fait que si on accorde à l'école ce rôle-là, on aura surestimé sa capacité à transformer l'école, à transformer la société, parce qu'il y a des inégalités contre lesquels on ne peut lutter qu'à travers des réformes économiques, concernant l'accès à l'emploi, concernant la répartition de revenus, et ainsi de suite.
Mais Saïd Anchan, préconisez-vous, qui êtes spécialiste des politiques publiques, inégalité, développement, enseignement, éducation, qu'est-ce qui pourrait être fait concrètement aujourd'hui, sachant qu'on a déjà...
Concrètement, je voudrais insister là-dessus, s'il te plaît, Afak, et je voudrais vraiment être optimiste, et je ne veux pas me positionner comme donneur de leçons, mais ce sont des convictions qui émanent de mes travaux et de mes réflexions, donc des réflexions modernes. Donc premièrement, souvent on se compare avec les pays sud-asiatiques, tu viens de le faire à CRH. Il ne faut pas oublier qu'en Corée du Sud, par exemple, plus de 80% d'une classe d'âge ont un niveau Bac plus 3, voire Bac plus 5, alors qu'au Maroc, ils ne sont qu'à peine 6% d'une classe d'âge qui rentrent au primaire, au Tnachalam, ils ne sont que 6% qui ont le bac. Peut-être les choses ont évolué, mais à mon sens, très peu significativement. C'est ce que les spécialistes appellent l'état d'achèvement. À mon avis, il faudrait tout d'abord définir exactement ce que l'on souhaite développer comme modèle et l'assumer. Est-ce qu'on souhaite développer un modèle compétitif, fondé formellement sur l'égalité des chances, où les pauvres financeraient l'éducation des plus favorisés, dans la mesure où seuls les enfants de ce dernier réussissent à intégrer des parcours longs et prestigieux de formation, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Maroc. Ou bien s'agit-il de développer un modèle reposant au préalable, sur une phase d'égalisation des résultats avant d'organiser la compétition selon les vocations et le mérite. C'est ce que j'appelle, dans mes travaux, un modèle de justice scolaire équilibré qui conviendrait mieux aux intérêts des citoyens et de la cohésion sociale. Autrement dit, très précisément, il faudrait commencer par stopper et interdire légalement l'abandon d'un élève avant le niveau bac et s'assurer qu'il atteint un niveau de compétence jugé suffisant selon les protocoles d'évaluation établis par les excellents pédagogues et didacticiens dont nous disposons aujourd'hui au Maroc. Depuis 2000, le cumul des abandons scolaires
là, c'est plus de 7 millions,
pendant
j'ai vu.
La seule scolarité obligatoire doit dépasser aujourd'hui les 7 millions de jeunes sortis sans aucune qualification.
J'ai vu ça.
Ça alimente un phénomène nouveau et dangereux que sont limite, c'est-à-dire des jeunes qui sont ni en éducation, ni en formation, ni en emploi, et qui ne sont pas concernés par...
Saïd Anchan, parce qu'il nous reste juste une petite minute. Je veux dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut partir sur une école basée sur la compétitivité et la performance, alors que notre économie aujourd'hui n'est pas évaluée, en tout cas en matière de performance et de compétitivité, réellement, puisqu'on n'est pas encore dans les radars internationaux en matière de compétitivité.
L'école marocaine. Il faudrait qu'on parte de nos réalités. Il faudrait d'abord stopper l'abandon. Et essayer de faire en sorte que tous les Marocains, on a fait une très belle réforme pour la protection sociale. Tous les Marocains aujourd'hui, grâce à l'initiative royale que je salue, j'étais vraiment très content, j'ai sauté de joie quand j'ai appris ça. Tous les Marocains ont une protection sociale. L'éducation, c'est un droit inscrit dans l'article 31 de la Constitution. Donc, tous les Marocains, ils doivent avoir au moins le niveau baccalauréat avec un niveau de compétence, avec un niveau de compétence qui leur permet de choisir leur voie par la suite. Soit ils vont avoir le baccalauréat, soit ils vont pouvoir s'orienter vers la formation professionnelle, mais l'orientation vers la formation professionnelle, on n'a pas parlé de la formation professionnelle. Il doit être fait également selon le mérite, il ne doit pas être une voie de garage, il doit être un secteur intégré dans le système de l'éducation nationale. Mmh. Et il faudrait que la formation, parce qu'on ne peut pas, sauf, si vous parlez avec le ministre de l'Industrie, oui. c'est l'Alami, on a fait l'Alami, il vous dira que l'un des principaux problèmes auxquels il se heurte, alors que nous avons aujourd'hui une politique industrielle très agressive.
Effectivement,
il va vous dire que l'une de ses contraintes, c'est de trouver des qualifications intermédiaires.
Merci beaucoup, en tout cas, Saïd Anchan.
Merci beaucoup.
Le scan s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur telquel.ma.
Pour plus d'enquêtes, de reportages et d'analyses, abonnez-vous à telquel sur telquel.ma/abo, telquel.ma/abo, A-B-O.